Talim.
Talim.
Vous êtes pris dans cette tension entre la fluidité d'une langue, la mobilité d'une langue,
Talim.
Et puis les différences de statut qu'elle traverse en tant que langue véhiculaire.
Et peut-être que ce qu'on voit le plus au théâtre vient de l'oreille. Le théâtre n'est pas un art visuel, c'est un art de l'imaginaire.
Talim.
Talim.
S'anime.
Réalisateur du film mythique Ange Bleu en 1930, mentor et complice de Marlène Dietrich, Steinberg a marqué l'histoire du cinéma par son style visuel unique, par son travail sur la lumière et les corps, et son approche très personnelle de la mise en scène. Mais qui était Steinberg? Qu'a-t-il apporté au cinéma américain? Et pourquoi son œuvre mérite-t-elle d'être redécouverte aujourd'hui? Bonjour et bienvenue sur Talim s'anime. Je suis Peggy Cardon et pour ce podcast consacré au cinéaste Joseph von Steinberg, je reçois Jean-Loup Bourget, professeur émérite à l'École normale supérieure rattachée à Talim. Il est spécialiste de l'histoire et de l'esthétique du cinéma principalement américain et nous allons explorer avec lui l'œuvre d'un cinéaste à la fois célèbre et mystérieux, Joseph von Steinberg. Bonjour Jean-Loup Bourget.
Bonjour Peggy Cardon.
Pour commencer, pouvez-vous nous raconter brièvement qui était Steinberg?
Alors Steinberg, c'est intéressant parce que c'est une vie qui n'est pas... Enfin, toutes les vies sont singulières, mais la sienne tout de même a certaines caractéristiques inhabituelles. On sait où il est né et quel nom on lui a donné quand il est né. C'est-à-dire Jonas Steinberg, né à Vienne en 1894. Il a été, dans son enfance, ballotté entre Vienne, où il est resté au moins jusqu'à l'âge de 7 ans, et les faubourgs de New York. Nous avons un peu une double personnalité, Jonas Steinberg, juif viennois, et puis Joseph von Steinberg, un nom aristocratique qui... À Hollywood, en tout cas à l'époque, ne trompe absolument personne. C'est-à-dire que certains l'ont traité d'imposteur. Par exemple, le grand romancier américain John Dos Passos. Ils ont travaillé ensemble sur The Devil is a Woman. L'adaptation du roman de Pierre-Louis, La femme et le pantin, est signée et créditée au générique à John Dos Passos. En réalité, Dos Passos a été un prête-nom, il n'a pratiquement rien fait, mais son nom figure au générique. C'est souvent le cas à Hollywood, des génériques qui sont très trompeurs parce que ça a été négocié en amont, mais ça ne correspond pas forcément à la réalité de ce qui s'est passé. Mais Dos Passos, 30 ans après, dans ses mémoires, dit « J'ai longuement parlé avec Steinberg de Vienne, j'ai fait comme si moi j'étais allé à Vienne ». Et comme si lui était viennois, ni lui ni moi n'avions jamais mis les pieds à Vienne. Et ça, c'est totalement faux.
Ce qui frappe dans les films de Steinberg, me semble-t-il, c'est la diversité des mondes qui sont représentés. Le Maroc, la Chine, l'Espagne, la Russie impériale. Comment expliquez-vous finalement cette dimension qu'on pourrait appeler orientalisante de ces décors? Est-ce que finalement, pour Steinberg, c'est un moyen... de styliser le réel?
C'est orientalisme, oui. Exotisme, bien sûr. Des films qui présentent des univers d'évasion. C'est surtout vrai des films avec Marlène Dietrich. C'est-à-dire qu'il y a une série de 6 films hollywoodiens avec Marlène, donne des exemples d'exotismes divers, au moins pour 4 d'entre eux quand même. C'est vrai du premier qui s'appelle Morocco. Comme le titre l'indique, c'est censé se passer au Maroc, c'est tourné en studio, comme tous les films hollywoodiens de l'époque, situé dans le Maroc protectorat français, avec, face à Marlène Dietrich, Gary Cooper dans le rôle d'un légionnaire qui tombe amoureux d'elle, elle tombe amoureuse de lui. Enfin bon, c'est assez complexe, mais là, on est en plein exotisme colonial, dirons-nous. C'est vraiment Morocco qui a lancé Marlène Dietrich comme une grande vedette
contrairement à ce qu'on imagine en fait de la carrière de Dietrich, qui tient quand même beaucoup à ce premier film.
À l'Ange Bleu, oui, mais c'est-à-dire que Ange bleu n'est pas un film hollywoodien. La version originale est la version allemande.
Oui.
Et puis, il y a une version anglaise tournée à Berlin avec les mêmes acteurs que la version allemande.
D'accord.
Mais donc, ce n'est pas du tout, techniquement, un film hollywoodien. En revanche, c'est un film d'abord fait pour Emil Jannings. C'est un grand acteur du cinéma allemand qui a été invité à Hollywood. Quand Sternberg, à Berlin, on lui propose de tourner un des tout premiers films allemands parlants, il choisit ce film d'après un roman de Heinrich Mann. Et Jannings, c'est une grande vedette du cinéma allemand et du cinéma international. Et Marlène Dietrich, c'est pas une star. C'est une vedette qui a déjà une petite carrière, mais qui n'est pas une grande star. Et ce qui va se passer avec L'Ange Bleu, c'est d'une part que ça correspond évidemment à l'histoire que raconte L'Ange Bleu. C'est la déchéance de Jannings, qui a priori est le grand acteur, et la femme fatale, pour employer un peu un cliché, mais qui humilie le prof un peu très conservateur, un peu borné. Enfin, c'était...
Donc on peut dire que cette rencontre avec Dietrich transforme la carrière de cette actrice, transforme peut-être aussi le cinéma en train de se faire.
Ce qui a frappé tous les contemporains qui ont vu L'Ange Bleu, c'est l'utilisation du son, du dialogue très convaincant et de très novateur. Au moment du passage au parlant, il y a eu quantité de films qui étaient un petit peu comme des pièces de théâtre. Une surabondance de dialogues qui pouvait être très ennuyeux. Et donc, pour une des premières fois, le son et la parole étaient utilisés sans tous les excès de dialogue qui avaient caractérisé les débuts du cinéma parlant.
Ce passage du muet au sonore a été un tournant majeur pour de nombreux cinéastes. C'est quand même Sternberg qui a influé sur son esthétique, vous diriez
ou... Oui, tout à fait. Sternberg, dès le cinéma muet, est considéré comme un grand cinéaste par beaucoup de critiques et certains de ses films remportent un très grand succès. Très rapidement, il y a un film qui s'appelle Underworld, qui est un film de gangsters. Il y a un film qui s'appelle The Last Command, Crépuscule de gloire, qui est un film à la fois historique sur la Révolution russe, à l'intérieur d'un flashback sur le tournage d'un film sur la Révolution russe à Hollywood, qui est vraiment une invention de Sternberg. Et puis, un troisième film muet, grand succès aussi, The Docks of New York, Les damnés de l'océan, titre français un peu pompeux. Donc, dès le muet, Sternberg a été considéré, à cause de ses trois films principaux, comme un grand cinéaste. Beaucoup de ses contemporains n'ont pas réussi à passer au parlant. Ils ont plus ou moins disparu, de même qu'ont disparu certaines vedettes. Il y avait John Gilbert, par exemple, qui jouait souvent avec Greta Garbo. Avec le parlant, il s'est aperçu qu'il avait une voix très haut perché qui paraissait féminine, qui était ridicule. Et donc, il a disparu. tant qu'il n'ouvrait pas la bouche, ça allait très bien. Mais quelqu'un comme Griffith, qui avait été un des fondateurs d'Hollywood, il a fait un film parlant. Et
donc,
il a
était plus ou moins, réellement un tournant majeur.
Il a pris sa retraite. Oui. Mais peut-être il faudrait qu'on revienne à la question de l'exotisme. J'ai parlé un petit peu de Morocco, donc le Maroc colonial. Il y a ensuite Dishonored, littéralement déshonoré, X-27 en français. C'est une histoire d'espionnage pendant la Grande Guerre. Donc, il y a de nouveau le thème viennois avec Marlène en espionne autrichienne qui tombe amoureuse d'un espion russe qu'elle est censée neutraliser. Et comme disait Sternberg, le titre est ridicule, elle n'est pas déshonorée, elle est fusillée par un peloton d'exécution.
D'accord.
Les deux derniers films de Sternberg avec Marlène que Sternberg lui-même considérait les plus réussis, les plus importants. Alors là, on est vraiment dans des exotismes exacerbés, avec d'une part The Scarlet Empress, l'impératrice rouge. C'est pas pour la première ni pour la dernière fois, l'histoire de Catherine de Russie.
Et de la Russie impériale.
La Russie impériale du XVIIIe siècle et l'ascension de Catherine, évidemment Marlène Dietrich, petite princesse allemande qui va devenir, en séduisant beaucoup d'officiers et même de simples soldats de la garde impériale, en s'alliant avec l'Église orthodoxe, va parvenir à s'emparer du pouvoir qui était détenu par le tsar, qui est son mari, qui est un imbécile assez pathétique. Mais donc, c'est le triomphe de Catherine qui est aussi le triomphe de Marlène Dietrich. Et dans une profusion décorative, architecturale, baroque et expressionniste... Et puis, le dernier film, The Devil is a Woman, La femme et le pantin, une adaptation d'un roman de Pierre-Louis de la fin du XIXe siècle, avec une héroïne, évidemment interprétée par Marlène, qui est dans la tradition de Carmen, la femme qui fait tourner tous ses soupirants en bourrique. On a une espèce de... ménage à trois. Là, certains critiques y ont vu des allégories de la situation de Marlène avec son mari et la fille qu'ils avaient ensemble, et puis avec Sternberg, puisque leur liaison a été de notoriété publique. Il y a un collègue espagnol, Santos Sunzunegui, qui parle de ménage à trois, mais ça me paraît beaucoup plus intéressant. Il y a un ménage à trois, Sternberg, Marlène et la Paramount.
Oui, c'est ça. C'est exactement ce sur quoi je voulais revenir. C'est est-ce que Sternberg n'aurait pas inventé une façon de filmer les femmes, et en particulier Marlène Dietrich?
Ça, je crois que c'est incontestable. D'une part, il y a eu cette relation à la fois professionnelle et intime entre ces deux personnes. En même temps, Sternberg est entre autres un maniaque de la photographie, de l'éclairage. C'est quelque chose qu'il a toujours voulu maîtriser, dont il a fait la démonstration, y compris... dans des interviews tardives dans les années 60, devant des télévisions. Il y a une jeune actrice à la télévision belge et il va montrer comment il va éclairer son visage à la Marlène, si j'ose dire, c'est-à-dire à la fois en lui demandant de ne penser à rien, de n'exprimer aucune émotion. Et il va faire en sorte d'abord que la lumière... soit filtré par une espèce d'instrument avec des petits trous. Et puis, il fait agiter une espèce d'éventail pour qu'on ait l'impression qu'elle est sous un feuillage et qu'elle est partiellement éclairée. Oui, oui. Lui redit surtout de ne penser à rien. C'est une technique utilisée par d'autres cinéastes, d'ailleurs Mamoulian avec la reine Christine et Greta Garbo. Il lui disait « tabula rasa ». À la fin du film, son visage qui n'exprime rien, comme ça le spectateur projette ses propres émotions sur le visage de l'actrice. C'est aussi de rendre le visage des actrices, Marlène et d'autres, par exemple Jean Tierney, jeune actrice qui débutait à ce moment-là dans un autre film donc de Sternberg très exotique, The Shanghai Gesture, littéralement le geste de Shanghai, titre un peu mystérieux, traduit en français simplement Shanghai. Ça exprime la beauté, le mystère, parce qu'on ne sait pas au fond ce que pensent ces femmes. Et c'est ça qui les rend fascinantes en même temps. Si elles étaient aguichantes, ça n'aurait pas un grand intérêt. Si elles étaient prudes, ça serait un obstacle infranchissable. Mais là, on ne sait pas très bien à quoi s'en tenir, et c'est ça aussi qui fascine.
While there, it was my bad luck to run into her once more.
I'm romantic, so romantic, that I often wish I had a more discreet heart. But believe me, please believe me, when I tell you that I haven't got a sweetheart.
Do you mean to say that you had none?
Did you hear me say that I had none? No, I only said I haven't one. Three sweethearts have I, three handsome sweethearts. And one is the son of a...
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 Il faut dire aussi que c'est une personnalité dans laquelle il y a un côté très orgueilleux, revendiquant par exemple le contrôle complet sur ses films, parfois jusqu'à l'excès, jusqu'à l'absurdité. Et en même temps, il y a une dimension masochiste. On a l'impression qu'il prend presque plaisir parfois à avoir des conflits avec le producteur, avec l'actrice ou l'acteur, etc. Et à dire, j'avais fait tout ce qu'il fallait pour faire un film absolument dans des conditions idéales, et tout ça s'est retourné contre moi. Et alors, parfois, il exagère dans ses déclarations. Il a publié un long livre de mémoires en 1965, très intéressant, mais avec beaucoup de silence sur certains événements de son œuvre cinématographique, et puis aussi des remarques parfois un petit peu critiques, voire méchantes, sur les acteurs et les actrices qu'il a dirigés. Il a dit je ne sais combien de fois, les acteurs, les actrices, c'est comme les couleurs sur la palette d'un peintre.
Ah oui, c'est quand même,
Mais dans les mémoires, il dit par exemple, je ne veux pas que les acteurs aient des idées sur leur rôle. Un chapitre consacré à Marlène, où il est beaucoup question du mythe de Pygmalion et Galatée. Le sculpteur qui sculpte une magnifique femme dont il devient amoureux, et Vénus insuffle la vie à cette femme pour qu'elle tombe dans les bras de son créateur. Bon, c'est quand même un rapport genré caractéristique, mais par ailleurs, il a deux chapitres sur deux acteurs. Ian Hinks, qu'il a dirigé dans L'Ange Bleu, mais qu'il avait dirigé auparavant dans Crépuscule de Gloire, et Charles Laughton. Donc, deux très grands acteurs, des monstres du théâtre et du cinéma. Alors, il faut expliquer pour Charles Laughton, c'est un des points les plus désolants, en un sens, de la carrière de Sternberg, c'est que, après la série avec Marlène, Alexandre Korda, grand producteur d'origine hongroise qui s'est installé à Londres, lui propose de faire un film de I, Claudius, un roman historique remarquable de Robert Graves qui se présente comme les mémoires à la première personne de l'empereur Claude. Korda a sous contrat pour jouer le rôle de Claude Charles Laughton, grand acteur anglais qui a déjà joué dans des films historiques, donc tout paraît parfait. Le tournage commence à Londres en 1938. C'est une énorme production. Et alors, les rapports entre Sternberg et Laughton sont épouvantables. Parce que Laughton passe son temps à dire « Oui, alors Claude, il boitait, mais est-ce qu'il boitait de la jambe droite ou de la jambe gauche ?» Et on voit, parce qu'on a gardé des rushs qui ont été tournés du film, plein de scènes avec Laughton qui s'arrêtent tout d'un coup. Il dit « Ah non, je me suis trompé, etc. »
D'accord. Enfin,
et donc, le tournage prend une mauvaise tournure. Tout le monde est excédé par les caprices de Laughton. Il y a une actrice qui est Merle Oberon. Et l'idée de Korda, c'est aussi que Sternberg va faire d'elle une star. Merle Oberon a un grave accident de voiture. Korda décide d'arrêter les frais. Le tournage est arrêté. Le film, évidemment, ne sera jamais fini. C'est curieux comme coïncidence, mais à la même époque où Sternberg écrit ses mémoires et parle évidemment du tournage interrompu de I, Claudius, la BBC fait un documentaire passionnant sur le tournage interrompu de I, Claudius avec des témoignages de tous les survivants. Laughton en particulier est mort, mais il y a Sternberg, il y a Merle Oberon, il y a la script girl, etc. Et il y a les extraits du film qui étaient absolument magnifiques. C'est tout ce qui reste du film.
Vous avez travaillé donc sur un certain nombre de cinéastes, dont Sternberg, mais quel écho entre Sternberg et ces autres réalisateurs sur lesquels vous avez travaillé ? Y a-t-il des points communs ? Y a-t-il des oppositions ?
Oui, il y a le cas, alors là c'est une rivalité indirecte, dirons-nous, mais tout de même importante. C'est l'affaire de l'adaptation du roman de Theodore Dreiser, Une tragédie américaine.
Oui.
Eisenstein et son équipe, qui bénéficient à l'époque d'un congé sabbatique pour se rendre en Europe occidentale et à Hollywood, présente l'adaptation d'une tragédie américaine, le roman de Dreiser. La Paramount dit « Ces scénarios sont géniaux, c'est les meilleurs qu'on ait jamais lus, mais pas question, c'est trop cher, c'est trop long, ça coûterait $1 million, et puis très critique de l'Amérique, des valeurs américaines. Alors si en plus c'est fait par des non-américains, ce bolchevique, Eisenstein, etc. » Enfin, on leur dit poliment « génial, mais non merci ». Et à ce moment-là, on demande à Sternberg et à un scénariste qui s'appelle Offenstein de reprendre le projet. Alors, dans ses mémoires toujours, Sternberg dit qu'il était très ami avec Eisenstein, que Eisenstein lui avait envoyé un télégramme de félicitations après Morocco, mais avait critiqué un petit peu Shanghai Express. On n'a pas parlé de Shanghai Express, autre film avec Marlène. Exotique. Mais Sternberg dit « J'admirais Eisenstein, j'ai jamais lu son scénario ». Alors ça, on peut quand même s'interroger. Il dit « J'ai pas du tout travaillé avec lui, j'ai pas vu son scénario, je sais même pas s'il y avait un scénario, s'il y en a un, je ne l'ai pas lu ». Donc Sternberg avec Offenstein propose une nouvelle adaptation du roman de Dreiser, et Dreiser demande aussi un droit de regard sur le scénario et sur le film de Sternberg. Et quand il voit le film de Sternberg, ça le met dans tous ses états. Il considère que c'est une trahison de son roman, etc. Il intente un procès à la Paramount. Il est débouté parce qu'il avait un droit de regard. Il a fait ses remarques, mais la Paramount n'était pas obligée d'en tenir compte. À cause de l'incident Eisenstein et aussi d'une autre version qui sera de George Stevens avec Montgomery Clift et Elizabeth Taylor en 1950, qui sera une adaptation très belle, mais beaucoup plus infidèle du roman de Dreiser, le film de Sternberg un petit peu oublié, alors que je trouve, je ne suis pas le seul, mais je trouve que c'est un film qu'il faut vraiment réhabiliter.
Pour finir, une dernière question, Jean-Loup Bourget. Aujourd'hui, quelle est la réception dans l'histoire du cinéma de ce cinéaste qu'a été Sternberg ?
Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, Sternberg a toujours suscité des réactions assez contradictoires. C'est un des éléments que j'ai essayé de mettre au jour. On s'aperçoit que sous le muet, il est considéré comme un grand cinéaste. Mais il y a de temps en temps des gens qui disent non, on n'aime pas ce style, etc. Les films avec Marlène dans l'ensemble sont ceux qui ont été les plus vus, les plus admirés. Mais je vais parler d'un dernier exemple pour vous répondre qui, là encore, divise les spectateurs. Son dernier film, alors, est vraiment très curieux, une espèce d'apax, même dans la carrière déjà assez singulière de Sternberg. Il tourne au Japon, dans un studio, un film sur un groupe de Japonais, soldats et marins, qui s'étaient trouvés sur une île au milieu du Pacifique, à partir d'un récit semi-documentaire, semi-fictionnalisé. Le film s'appelle « Anatahan » ou bien « La saga d'Anatahan », en français « Fièvre sur Anatahan ». Anatahan, c'est l'île. Distribution entièrement japonaise, essentiellement des hommes, et une femme décrite comme la reine d'un essaim de bourdon.
Ah, on revient tout de même sur cette image de la femme reine qui
c'est un peu l'impératrice Catherine. Mais donc, c'est une espèce de huis clos, tourné dans une jungle reconstituée en studio, et un film entièrement parler en japonais, avec un commentaire écrit et enregistré et dit par Sternberg lui-même. Parfois, il dit des choses qu'on ne voit pas à l'écran. Parfois, il dit des choses qui contredisent ce qu'on voit à l'écran. Il fait des commentaires. Il fait aussi un petit peu son La Rochefoucauld sur la folie des hommes. Évidemment, tous les hommes sont attirés par cette jeune femme, très belle d'ailleurs. Elle ne peut pas y faire grand-chose, elle les attire irrésistiblement, donc ils commencent à s'entretuer, etc. Mais moi, c'est un film que je trouve extraordinaire.
Comment il a été reçu, ce film ?
Alors, là encore, typiquement, Sternberg dit, ce qu'il dit lui-même du film, il dit « c'est le film que j'ai réalisé dans les meilleures conditions imaginables. J'avais le contrôle sur tout, exactement ce que je souhaitais. Et c'est, de tous mes films, celui qui a eu le moins de succès. » Il en rajoute un petit peu, comme souvent. Je sais qu'il y a, des spectateurs, des spectatrices qui ne sont pas convaincus par ce film, ne serait-ce qu'à cause de ce dispositif. Mais moi, je trouve que c'est un film qui ne ressemble à aucun des autres, qui a, parmi les amateurs, un succès d'estime très grand.
Merci beaucoup, Jean-Loup Bourget, pour cet éclairage sur Joseph von Sternberg. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis pour ce dernier épisode et rendez-vous pour la prochaine saison de Talim s'anime.